Notre séance d'aujourd'hui étant vouée à la célébration de la langue, dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est.
On tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Hélène Daude.
Entre eux, on dit il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? Il ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas sa faute.
L'Allemand Jean-Martin Schleyer est mort en 1912 et la Première Guerre mondiale lui fut donc épargnée, qui signait la faillite de la langue qu'il avait créée en 1879 pour favoriser l'entente universelle, le volapük. Volapük est l'altération de deux mots anglais, vol tiré de world, monde, univers, puk tiré de to speak, parler. La voyelle de liaison a, reliant donc vol à puk. Dans son dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey écrit « D'emploi technique et rare, volapük est devenu un moment plus courant en France dans les années 60 à la suite d'un discours, c'était du reste une conférence de presse, du général de Gaulle, mais reste connoté péjorativement à la différence d'espéranto. Il n'y avait sans doute place que pour une seule utopie linguistique. Mais je voulais saluer une dernière fois les volapukistes avant d'en arriver aux espérantistes. » Objet, dans un instant, du documentaire de Jean-Claude Lescure. Ensuite, pour le dernier quart d'heure de l'émission, je recevrai en studio Egidio Festa, traducteur d'un ouvrage italien prodigieux récemment publié aux belles lettres, un dictionnaire des langues imaginaires. Mais tout de suite, voici notre chroniqueur coruscant, dont la parlure s'apparente à une cataverusa française. Voici donc Philippe Barthelet.
Facilité linguistique. Dans Jérôme, 60e degré de latitude nord, qui eut le prix Goncourt en 1927, l'excellent Maurice Bedel fait dire à l'un de ses personnages « La diversité des langues engendre les guerres. L'espéranto les abolira. Je suis espérantiste. Ne l'êtes-vous pas ?» Jérôme ne l'était pas, mais l'histoire encore moins, qui rétrospectivement donne à cette profession de foi en forme d'acte d'espérance une ironie plutôt amère. Toutes ces rêveries d'interlangue, que l'on dirait sorties du sein généreux de Victor Hugo, le XXe siècle en aura fait litière, et vite. Première tentative du genre, le volapük du curé Schleyer, alignait en 1889, soit 10 ans après son invention, pas moins de 25 périodiques, près de 300 clubs, autant de manuels et 1600 professeurs. 20 ans après, il n'en restait rien, et le nom même n'a survécu que sous la forme d'une quasi-injure dans la bouche du général de Gaulle. Zamenhof reprit l'aventure à son compte avec l'espéranto, dont le nom dit assez que c'est mieux qu'une interlangue, une aspiration à la concorde universelle. La langue proprement dite se double d'ailleurs d'une tentative de religion de l'humanité, l'illélisme ou homaranisme, dont le congrès fondateur était prévu à Paris pour l'été 14. Décidément, le génie de l'histoire a l'humour grinçant. Tout sympathiques qu'ils sont, et quelquefois la sympathie qu'ils s'inspirent à eux-mêmes leur est une permission d'aveuglement, les utopistes de ce genre n'ont qu'un défaut. Croire que les bonnes intentions suffisent à tout arranger, y compris la malédiction de Babel. Au lieu de quoi, et c'était fatal, ils en ont rajouté. L'improbable langue universelle se fragmentant presque aussitôt en Balta, Spellin, Dil, Weltpark, Dilpok pour le volapük, Ido, Ignal, Novial, Occidental, Interlingua et l'on en passe pour l'espéranto. Otto Jespersen, espérantiste, idiste et novialiste, et linguiste danois à l'origine, professait que la meilleure langue internationale est celle qui présente la facilité maxima pour un nombre maximum d'hommes. C'est avoué que la question, sous sa facilité apparente, est un casse-tête insoluble, la notion de facilité maxima ne pouvant s'entendre de la même façon en français et en japonais, en islandais et en hindi. L'utilitarisme en tout domaine est une myopie. Une langue ne peut se ramener à une combinatoire plus ou moins convenue, et l'unité n'est pas l'hypothétique dernier mot de la diversité, mais le premier. De même que le véritable écuménisme est l'unité transcendante des religions, et n'a rien à faire avec le syncrétisme qui croit l'atteindre en confondant les formes, les couleurs du prisme réunies reconstituent le blanc primordial, tandis que le mélange des pots de peinture donne cette teinte indistincte qui, comme aurait dit Bossuet, n'a plus de nom dans aucune langue. »
Le monde au bout de la langue, avec l'espéranto, on peut trouver des interlocuteurs dans à peu près tous les pays du monde. Je ne dis pas qu'on trouverait spontanément, par hasard, un espérantiste dans la rue, parce qu'il n'y a actuellement aucun moyen de le reconnaître. Mais il y a donc des annuaires qui sont publiés chaque année et qui permettent de trouver des adresses dans chaque grande ville du monde. Et à partir de là, donc, d'avoir un contact avec le réseau local des espérantistes. Et je l'ai, par exemple, moi-même, beaucoup utilisé.
Bonjour, Marin.
L'inventeur de l'espéranto est Louis Zamenhof, qui était un Polonais, qui vivait à cette époque à Białystok, petite ville de la frontière russo-polonaise, estonienne, etc. Et dans cette ville coexistaient quatre grandes communautés, qui étaient une communauté polonaise, une communauté juive, une communauté russe, une communauté allemande. Et chacune de ces quatre communautés vivait dans un état pratiquement de ghetto et d'incompréhension, ce qui fait que, fort fréquemment, il y avait des altercations. Et le jeune Zamenhof, qui était particulièrement doué, il faut le dire, pour les langues, à 10 ans, maîtrisait, on peut dire, à peu près parfaitement, au moins pour les âges courants, ces quatre langues. Et chaque fois, se disait, mais encore une fois, il s'agit d'un malentendu. S'il se comprenait, ceci n'arriverait pas. Il faut permettre aux hommes de se comprendre.
L'espéranto pourrait donc fonctionner comme langue internationale, pour les mêmes raisons que cette fonction a été exercée au cours des siècles par des langues naturelles comme le grec, le latin, le français, l'anglais ou le swahili. Umberto Eco, la recherche de la langue parfaite.
Un granda plezuro mi povas paroli al vi pri Esperanto. Je suppose que vous avez compris. Avec grand plaisir, je peux vous parler d'Esperanto.
Alors, comment est construite cette langue ?
Alors, comment est construite cette langue ? Zamenhof a recherché dans les grandes langues européennes, c'est-à-dire à la fois les branches germaniques, slaves et latines, quelles étaient les racines communes. Et à partir de ces racines commune, il a adopté un système de préfixes et de suffixes qui permet, avec une seule racine, de faire au strict minimum 10 à 15 mots, et 20 à 30 ne sont rien d'exceptionnel. Même si ces racines sont des racines européennes, pour un oriental, il y a quand même une économie considérable dans l'apprentissage. Ça, c'est l'aspect vocabulaire. Quiconque apprend l'espéranto, qu'il soit européen ou asiatique, d'emblée va se familiariser avec tout le vocabulaire européen, on peut dire, et on peut dire maintenant international, puisque la plupart des mots qui rentrent dans l'espéranto sont des mots internationaux. Par contre, la structure de l'espéranto, elle, est la structure des langues agglutinantes et isolantes, telles que chinois, japonais, turc, etc., ce qui fait que les locuteurs de ces pays se retrouvent tout à fait à l'aise et voire même sont plus créatifs que les Européens puisqu'ils ont l'habitude de construire des mots. Les terminaisons, c'est on ne peut plus simple. Tous les noms se terminent par O, tous les adjectifs par A, tous les adverbes par E, tous les verbes par I à l'infinitif, au présent AS, au passé IS, au futur OS, au conditionnel US, à l'impératif U.
Vous pouvez nous donner un exemple de formation, justement, à partir d'une racine des différents mots.
Donc, parole I, le verbe, parler. Parolo, le nom, la parole. parola, l'adjectif qui serait en français oral. Parolanto, c'est l'orateur. A, le signe du présent. Parolinto, il le passé. C'est celui qui vient de parler, l'orateur qui quitte la tribune. Parole onto, le haut du futur, c'est celui qui va parler. Vous voyez que là, nous avons créé deux mots inexistants en français, de nuances très précises. Le mot espéranto est formé de la même manière, espéri, le verbe, ant, le participe présent, o, le nom. Esperanto, c'est celui qui espère, et c'est pourquoi Zamenhof avait pris le pseudonyme de docteur Esperanto. Et c'est ce pseudonyme qui est resté à la langue.
La nun proponata brosuro, la leganto credeble preno sur la manon.
Et voici un enregistrement sur cylindre de la voix de Zamenhof réalisé au début du siècle.
L'espéranto, c'est une langue qui s'écrit comme elle se prononce.
Philippe Bérisy.
Donc le concept même d'orthographe en espéranto n'existe pas. Donc si à l'école on faisait des cours d'espéranto, il n'y aurait pas de dictée, par exemple. On ne peut pas faire de faux d'orthographe en espéranto. Donc ça, ce sont des éléments objectifs qui font que l'espéranto est une langue simple. Elle est phonétique, elle a une grammaire très simple. Néanmoins, elle a quand même un important vocabulaire. Et ce vocabulaire, il faut bien l'apprendre. Et ça demande un certain temps. L'espéranto est une langue aujourd'hui qui a un fonctionnement, je dirais, de langue naturelle. Alors pourquoi je dis ça ? Pourquoi je dis ? Parce que l'espéranto, c'est une langue normale. Même si elle a été construite comme une langue artificielle au départ, c'est une langue normale, c'est-à-dire qu'elle évolue en tant que langue naturelle. Et ça veut dire qu'on peut tout exprimer en espéranto.
Il y a d'abord lieu d'observer que l'espéranto est un idiome simple, flexible, harmonieux, se prêtant également à l'élégance de la prose et à l'harmonie du vers. Il est capable d'exprimer toutes les pensées et même les sentiments les plus exquis de l'âme. En outre, par ses éléments, il est la langue internationale par excellence. L'idée maîtresse qui a présidé à sa formation, c'est le choix des racines en proportion de leur internationalité, c'est-à-dire élues au suffrage universel. Quant à la prononciation, pour la rendre plus accessible à la masse, le docteur Zamenhof a eu soin de combiner le phonétisme avec le graphisme dans le choix des éléments internationaux. Tout ce que l'on pourrait objecter, c'est que les Suédois et les Russes ont des langues plus éloignées de l'espéranto au point de vue de la prononciation que les autres peuples de l'Europe. Ils ont donc à faire un effort plus considérable que les Latins ou les Saxons à cet égard. Et cependant, l'espéranto est d'une telle utilité pratique que la Russie, qui a le premier rang pour le nombre de ses adhérents, et le second rang appartient à la Suède. Aussi, l'espéranto a-t-il en tout pays jeté des racines profondes et vigoureuses. À tel point, on peut l'affirmer avec orgueil, et la France a contribué pour la plus grande part, qu'il n'existe plus de contrée où il ne se rencontre des espérantistes. Jules Verne, Voyage d'études.
Alors si je me suis mis à l'espéranto, c'est au sortir de la guerre, de cette grande boucherie où j'ai constaté que vers quelques gouvernements en partie que je me tourne, le discours était toujours le même, bien qu'il n'y ait plus aucun ennemi en vue. Il faut une armée, il faut fabriquer des armes, il faut. Donc j'en ai conclu que la solution ne pouvait venir que des peuples, et pour que les peuples arrivent à pesé d'un certain poids, il fallait qu'ils se comprennent, et pour se comprendre, il fallait qu'ils aient une langue qui leur permette d'y arriver rapidement et de façon efficace.
J'ai découvert l'espéranto pas tout à fait par hasard. Mon grand-père était déjà espérantiste, donc il y avait une tradition un peu familiale.
Christian Lavarenne.
Ce qui m'a vraiment fait mordre dans la chose, c'est que je l'ai donc appris pendant environ 6 mois, 1 heure par semaine, et ça suffit pour avoir une maîtrise suffisante de la chose. Et je suis tombé sur une petite annonce dans un journal qui n'était pas spécialement espérantiste, qu'il y allait y avoir un tour d'Europe contre la barrière des langues, et en fait en plus petit pour l'espéranto. Alors je me suis dit, c'est intéressant, le vélo, pourquoi pas. Et ça partait donc de Céré puis Perpignan, et ça devait atterrir à Varsovie en 1987, puisque c'était le centenaire de la langue. Alors j'ai fait 2 mois et demi à vélo avec quelques autres personnes, à peu près 3500 km. Et chaque jour, il y avait un rendez-vous qui était à 16h devant la mairie du lieu. Donc les espérantistes venaient à ce rendez-vous. Et ensuite, on essayait de contacter un représentant de la mairie au niveau le plus élevé possible, mais ce qu'on pouvait faire sur le moment. Et puis évidemment, des journalistes. Et à peu près 3 fois sur 4, les espérantistes nous invitaient chez eux, alors qu'on avait quand même prévu des tentes pour être entièrement autonomes. Et ça, ça a été quand même une expérience très très marquante à mon niveau, puisque l'espéranto, je me demandais si ça existait encore vraiment, comme la moyenne des gens. Et je me suis aperçu que tous les jours, je rencontrais de nouvelles personnes qui me parlaient bien espéranto en France, en Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie. C'est une langue qui est bien vivante. Doniĝas li papago, li multe ŝatas domoj, aspektas kiel aglo. Se iu vin demandus, ne gravas eĉ pri kio, do multe vi ekaŭdos, se pri io ajn alia, ne provu diri kontraŭ. Comprenos li apenas, li nur por vi demonstras, al homoj apartenon, sed li papago estas, el lia kap malforta, kiel en posta kesto, nur vorto.
Quelle différence faites-vous entre espérantiste et espérantophone? L'espérantophone, pour moi, c'est celui qui parle l'espéranto. Il le parle pour son plaisir personnel, pour lire une multitude de romans écrits par des auteurs des quatre coins du monde, pour assister à des congrès où il va assister à des représentations théâtrales, de chant, de poésie, participer à des circuits touristiques, etc. Je dirais que c'est un utilisateur de l'espéranto. Et l'espérantiste, c'est celui qui, en plus, a gardé quelque chose de l'idée initiale de l'espéranto, de cet idéal de compréhension et de respect mutuel, et qui essaye de le promouvoir.
En fait, à l'origine, espérantiste, en 1905, ça a été clairement défini au cours du premier congrès d'espéranto à Boulogne-sur-Mer. Ça signifiait toute personne pratiquant d'une manière ou d'une autre, et pour quelque but que ce soit, l'espéranto. Mais le terme un petit peu, le suffixe « iste » donne une connotation soit de spécialiste, soit de un petit peu presque d'un mouvement, soit politique, soit religieux, marxiste, etc. quoi. Donc c'est un terme qui petit à petit a tendance à s'effacer du vocabulaire des espérantophones. Et espérantophone, c'est un terme beaucoup plus neutre, on peut dire. Il y a des anglophones, c'est des gens qui parlent anglais. Les espérantophones, c'est des gens qui parlent espéranto.
Dans la culture de l'espéranto, il y a cette culture du respect de l'autre, de la paix, etc.
Et ça a débouché sur le maranisme pour Zamenhof et quelques-uns.
Voilà, il est intéressant de voir que Zamenhof était un précurseur, non seulement dans le domaine de l'espéranto, mais dans bien d'autres domaines. Vous venez de citer tout à fait opportunément le maranisme, qui était la tentative de créer une religion
qui soit aux religions ce que l'espéranto est aux langues, c'est-à-dire une religion commune qui accepte toutes les autres religions. Ce qui est quelque peu atteint, assez largement atteint par les Baïs, par exemple, à peu près contemporain au niveau de la naissance, et qui est recherché dans tout le mouvement œcuménique.
Monsieur Nicolas Vanoff était russe, âgé de 30 ans, aimable, charmant, nature en dehors, tout feu tout flamme pour la propagation de la langue internationale. On imaginerait difficilement avec quelle ardeur cet apôtre, pourrait-on dire, se dévouait à l'œuvre du docteur Zamenhof. On le sait, l'espéranto, depuis plusieurs années, avait pénétré dans les vastes régions de l'Afrique centrale au plus grand profit de la civilisation et du commerce. Et il fallait entendre l'enthousiaste Vanoff quand, accumulant conférence sur conférence, il se transportait de pays en pays, lorsqu'il parcourait les diverses parties de l'Europe, lorsque les auditeurs subissaient en foule son ardente éloquence, tantôt en russe, tantôt en français, en allemand, en anglais, et aussi dans ce langage espérantiste qui se répandait de plus en plus. Vous tous qui m'écoutez, vous le comprenez comme si je vous parlais votre langue d'origine, parce qu'il est formé de radicaux empruntés aux divers langages. Cela n'explique-t-il pas que, depuis une vingtaine d'années, il ait pu s'imposer au nouveau comme à l'ancien continent ? Et ne savez-vous pas que, rien qu'en Europe, on le parle couramment en Autriche, en Hongrie, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Belgique, en Bohême, en Bulgarie, en Danemark, en Finlande, en Suède, en Norvège, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Russie, en Moravie, en Portugal, en Turquie. Et vous imaginez qu'il n'a pas eu de peine à traverser les mers. Voyagez en Amérique, en Afrique, en Océanie, et vous trouverez partout des espérantistes pour comprendre quand vous parlerez l'espéranto. L'espéranto, c'est le plus sûr, le plus rapide véhicule de la civilisation. Ainsi s'exprimait Nicolas Vanoff. Jules Verne, Voyage d'études.
Au départ de l'espéranto, il n'y avait même pas d'association. Il y a eu très vite une revue, donc qui servait évidemment à centraliser l'information et la redistribuer. Et là, il s'est créé une association qui s'appelle UEA, par ses initiales, Universala Esperanto Asocio, qui veut dire Association Espérantiste Universelle, qu'on traduit maintenant par mondiale en général, donc qui n'était pas spécialisée, qui voyait tous les aspects possibles de l'utilisation de la langue. Mais en 1905, au même congrès de Boulogne-sur-Mer, qui était le premier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises à cette époque-là, décision principale a été de dire que l'espéranto, n'étant qu'une langue, plus facile que les autres, mais une simple langue, n'était lié à aucune tendance philosophique, religieuse ou politique. C'était déjà la réflexion de Zamenhof, l'inventeur de la langue, qui a, dans un des premiers congrès, peut-être le premier, s'était exclamé en public et avec beaucoup d'émotion, je suppose, pour la première fois, ce n'est pas un russe ou un anglais ou un allemand qui se parle, mais ce sont des hommes. En 1920 ou 21, a été créé donc SAT, qui est Sen Nazietza Associo Tutmonda, donc une association mondiale qu'on pourrait dire anationale. Alors, pour SAT, la tendance a été très marquée au départ, c'est-à-dire que je pense que le fondateur principal, dont le pseudonyme était Lanti, et c'est comme ça qu'il est connu par tout le monde, voulait mettre cette langue au service de l'international. Donc, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Comment ? Par une langue commune, donc l'espéranto. Alors, il est allé proposer la chose à Moscou. Donc, il est revenu très critique sur ce qu'il avait vu à Moscou. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'il est Il s'est plutôt tourné un petit peu vers, on peut dire, l'anarchie ou quelque chose comme ça. Et Sat, en fait, a représenté tout l'éventail simplement des gens qu'on pourrait dire engagés et progressistes. Donc aussi bien une tendance communiste, une tendance anarchiste, mais il y a aussi des chrétiens qui, par souci évangélique, sont aussi engagés socialement, etc. Et c'est vrai que ces deux tendances ont fini par former deux pôles un peu antagonistes. La neutralité qui pouvait risquer, et ce n'a pas été qu'un risque, de tendre un petit peu vers la droite, le conformisme, etc. Et puis une tendance dont certaines fractions étaient même un peu dures à une époque, donc communisante, etc.
L'arrivée de l'Internet a été un ouragan, on peut dire, dans le mouvement espérantiste, dans la mesure où il a permis immédiatement, à des coûts assez faibles, finalement, de pouvoir continuer à communiquer avec les personnes qu'on connaissait à l'étranger, à communiquer rapidement, efficacement et à moindre frais. Et il y a aussi effectivement le phénomène que sur Internet, c'est très facile effectivement de faire des sites web, par exemple, en espéranto, sur l'espéranto. Donc les sites web de ce genre-là ont fleuri. Donc c'est un phénomène qui est réel et important sur Internet.
Et quelle adresse de site est-ce qu'on pourrait aller consulter pour compléter sa documentation ?
Alors, dans les sites web, il y a le site web de l'association Espéranto France, donc www.esperanto-france.org. Il y a un portail internet sur l'espéranto qui est très intéressant, qui s'appelle Espéranto Panorama. Donc c'est www.esperanto-panorama.net.
Au niveau de la littérature, on peut dire que au moins les œuvres les plus connues d'Europe ont toutes été traduites en espéranto, que ce soit Goethe, Dante, Molière, la Bible, Shakespeare. Bon, je vous cite comme ça les plus connues, mais on pourrait continuer à l'infini.
Il existe une production littéraire très importante. On estime grosso modo à 30 000 titres traductions ou originaux, et la part des originaux est importante, et c'est certainement la seule langue qui s'enrichisse des apports culturels, linguistiques, sensibles, etc., des cinq parties du monde. Et ça, c'est un grand plaisir de lire des auteurs étrangers parce que eux ont l'idée de construire un certain mot qui est tout à fait parlant, expressif, etc., auquel nous n'aurions pas pensé, peut-être tout simplement parce qu'ils l'ont dans leur langue ou bien parce qu'ils ont cette réalité dans leur langue. La disige al ili mancas la vortoi, cun dors al lamp ili silente staras, dum longe si la capon ne eclevas, sencese larmoi sur la blusen falas. Voici la traduction avec toutes les pertes que peut donner une traduction. À la séparation, les mots leur manquent, le dos à la lampe, ils sont debout silencieux. Longtemps, elle ne lève pas la tête, sans cesse, des larmes tombent sur sa blouse. Poème très court. Et l'auteur, Wang Ingren, 1749-1783. «
pas que des poèmes traduits, il y a aussi de la poésie écrite en espéranto, comme La Espéro, ici chantée par le chœur de l'école polytechnique de Varsovie.